sur Blueprint.
Salut à tous et bienvenue dans La Cartouche, le podcast du jeu vidéo d'aujourd'hui. Je m'appelle Lou Lassinafoubert et toi c'est Yann Reader. Salut Yann.
Salut Lou, ça va bien?
Ça va très très bien, et toi, en cette période un peu compliquée, on va le dire, mais propice aux jeux vidéo en même temps?
Propice aux jeux vidéo, alors malheureusement, c'est pas ce qui occupe le plus clair de mon temps, hein. Il y a beaucoup beaucoup de travail, demandé, tiraillé dans tous les sens, mais écoute, je sers la science et c'est ma joie, d'une part, et d'autre part, j'aimerais remercier vous autres, auditrices, auditeurs, d'être avec nous pendant littéralement la fin du monde, de choisir de passer ces dernières heures sur Terre, écoutez un podcast jeux vidéo, merci à vous de nous faire confiance pour votre information, votre analyse sur le jeu vidéo. C'est ici dans La Cartouche toutes les deux semaines et c'est un grand plaisir de le faire évidemment avec Lou.
Ah, j'ai l'impression d'être dans Left 4 Dead, ça me fait extrêmement plaisir. On va parler de Nintendo surtout aujourd'hui avec le petit suivi un petit peu des dernières annonces. Il y a eu pas mal de trailers récemment. Mm-hmm. Mais on va commencer par une petite rétro. On va parler de Pokémon Trading Card Game. Pokémon Trading Card Game, donc c'est un jeu qui a été développé par Hudson Soft, qui est sorti en 1998 sur Game Boy Color. On retrouvait les créatures de la première génération, ou tout du moins les cartes des créatures de la première génération, puisque comme le nom l'indique, c'est un jeu de cartes. Est-ce que tu veux en parler un petit peu plus?
Oui, alors c'est un jeu de cartes dans lequel vous allez être un jeune dresseur, ou plutôt un jeune joueur de cartes, qui va récupérer son premier deck auprès d'un professeur dans un laboratoire. Toutes similitudes avec Pokémon bleu, rouge et jaune sont évidemment purement fortuites. Et ensuite, vous allez, chemin faisant, dans différentes arènes. Alors, il n'y a pas de route, il n'y a pas de chenal, il n'y a pas de Pokémon à les capturer dans la nature. Vous allez directement dans les arènes pour aller combattre des dresseurs, ou plutôt d'autres joueurs de jeux de cartes Pokémon, les battre le champion d'arène, ce qui vous fait récupérer un badge. Et au but de 8 badges, vous pouvez commencer à combattre les joueurs les plus puissants de l'île sur laquelle vous êtes, une petite île, voilà, un bout de territoire qui, je crois, n'est pas vraiment référencé dans les autres jeux Pokémon. Là,
tout
pour le
fait.
Coup, il joue un petit peu son exception géographique. Donc non, ce jeu-là, il m'a pas mal marqué parce que c'était l'occasion pour moi d'utiliser les cartes que je collectionnais dans un véritable contexte. Parce que les petits chiffres avec les petites statistiques d'attaque, les caractéristiques de ces attaques, les points de vie, tout ça, je m'en servais pas vraiment sur les cartes Pokémon physiques que j'avais parce que j'avais personne pour jouer avec moi.
Ah, c'est pas parce que ça te paraissait trop compliqué.
C'est pas parce que ça me paraissait trop compliqué, parce que le concept est quand même, enfin, pour un jeu de cartes à jouer et collectionner, est quand même assez simple.
C'est beaucoup plus simple que Magic, ça c'est sûr.
Il est question simplement de poser ses Pokémon sur le banc, d'en avoir un en priorité qui sera celui qui attaquera, mais qui se prendra évidemment la plupart des dégâts, et de battre les Pokémon des autres en mettant des énergies, donc qui permettent d'activer certaines attaques sur son Pokémon, de battre du coup les Pokémon adverses et de récupérer un certain nombre de récompenses, une récompense par Pokémon adverse abattu, le premier à récupérer toutes les récompenses, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, finit par gagner la partie. Voilà, c'est tout simple. Il suffit d'y aller au tour par tour. Alors évidemment, il y a des limites dans la façon dont ce jeu de cartes fonctionne. Vous ne pouvez pas mettre plus de 6 Pokémon sur votre banc et avoir un seul Pokémon actif. Vous pouvez faire évoluer les Pokémon, mais seulement une fois par tour. Vous pouvez poser des énergies, mais là aussi seulement une fois par tour, parce que sinon, ce serait la fête du slip et vous auriez un Pokémon super puissant dès le départ face au chenipan avec 40 points de vie en face et vous en feriez une bouche immédiate, ce qui évidemment n'est pas tout à fait le but. Quel passif est-ce que tu as toi avec ce jeu-là d'ailleurs? Comment est-ce que tu l'as rencontré pour la première fois?
Alors évidemment, je suivais toute l'actualité de Pokémon à l'époque, hein. J'étais déjà un immense mordu et je collectionnais déjà les cartes. Il y a une chose très importante et tu l'as plus ou moins suggéré, c'est que les cartes qu'on retrouve dans ce jeu, ce sont les cartes qu'on pouvait acheter dans la vraie vie.
Oui.
Ils ont modélisé en fait les cartes existantes. Donc
et d'ailleurs,
ça c'était quand même assez ouf.
La boîte de jeu originale contenait, sauf erreur, une ou plusieurs cartes bonus, comme il était de coutume, hein, à l'époque. Coutume qui a d'ailleurs été ravivée avec le film Pokémon Détective Pikachu. Pikachu, où des cartes promotionnelles Détective Pikachu ont été distribuées avec les plages de cinéma. Là, en l'occurrence, la Pokémon Company adorait faire distribuer des cartes Pokémon exceptionnelles, par exemple dans des goodies qui sont un petit peu liés, dont ce jeu vidéo, par exemple, mais aussi à l'occasion, bah, par exemple, du premier film Pokémon.
Tout à fait.
Un Mewtwo, ou plutôt deux Miaou, avait été distribué en version française. Là, je parle évidemment aux petits experts, aux petits fanfarons qui connaissent bien la petite anecdote et cette erreur d'impression dans la toute première version de cette carte promotionnelle, qui est d'ailleurs passablement hideuse hein, dans son design, il faut le dire. Les designs de cartes Pokémon, certains sont très choupis, très sympas, style aquarelle, style Van Gogh, style simplement joli petit dessin, pointilliste. Enfin, il y a plein d'interprétations différentes des Pokémon, et je trouve que c'est une des qualités des cartes Pokémon, qu'elles soient virtuelles ou réelles, c'est ce côté un petit peu réinterprétation du monde visuel de Pokémon, de de son univers graphique. Mais de l'autre côté, on a aussi toutes ces cartes au dessin franchement moche ou à la 3D un peu simpliste,
voilà,
qui rappelle le bon goût des années 2000 et des images de synthèse.
Le début de la 3D, ah, c'était formidable. Les cartes d'objets souvent étaient en 3D d'ailleurs.
Oui, bah notamment la carte échange où tu as
oh là là, t'as un Aspico, je crois.
Un Chenipan, un Aspico, ils font bonjour.
Enfin, c'est un Racaillou peut-être pour la carte échange. Aspico, c'est dans quand tu appelles un, je sais plus c'est laquelle, mais je vois.
La carte rappel. C'est la carte rappelle effectivement, c'est l'aspico.
Mais pas rappel, c'est pas ça, c'est l'aspico qui se fait attraper, qui se fait aspirer.
Exact.
Oui. J'écoute, je le vois dans ma tête.
Et pareil.
Là, c'est,
et qui est
extrêmement marqué.
Rendu, alors évidemment, si vous utilisez une Game Boy normale en noir et blanc, si vous utilisez une Game Boy Color en couleur, la particularité, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est bien ça, de ce Pokémon Trading Card Game sur une Game Boy Color, c'est qu'il fait partie de ces jeux Game Boy Color qui étaient tout en couleur, qui étaient vraiment adaptés à la couleur totalement, mais qui, comme Pokémon Or et Argent, n'étaient pas exclusifs à la Game Boy Color. C'est-à-dire que c'était une cartouche noire. La différenciation des cartouches, et c'est important à le dire dans un podcast qui s'appelle La Cartouche, excusez du peu, la différenciation importante, c'est deux choses. Premièrement, donc, entre une cartouche Game Boy et une cartouche Game Boy Color compatible avec les vieilles Game Boy, c'est que c'est une cartouche Game Boy dont l'encoche est là et qui n'est pas grise comme les cartouches Game Boy normales, mais d'une certaine couleur. Généralement, c'était noir. Par exemple, la réédition de Wario Land 2 en version Game Boy Color, parce que d'abord au Japon, elle était sortie en version Game Boy uniquement. Yada, yada, yada. C'est en noir. Mais dans certains cas de figure, par exemple, Pokémon Or, elle est en or. Pokémon Argent, elle est bleue. Et l'autre différenciation, évidemment, c'est que si la cartouche est une cartouche Game Boy Color exclusive, dans ce cas-là, son don est bombé, elle n'a pas d'encoche ou sommet, et elle ne donc peut pas être insérée et complètement fermée, la Game Boy complètement activée avec une ancienne Game Boy, puisque l'ancienne Game Boy pousse un petit plastique dans l'encoche pour vérifier que c'est bien une cartouche au bon format. Voilà, ça c'est la petite anecdote. Comment faire pour différencier des cartouches Game Boy de cartouches Game Boy Color compatibles Game Boy de cartouches Game Boy Color exclusives. Quant à moi, mon passif avec le jeu, je l'ai trouvé d'occasion en anglais, la version US. À Cash Converter, qui est donc l'équivalent d'un Cash Express, ou il y a d'autres noms en France, mais là, c'est le nom qu'on a ici en Suisse, en tout cas dans ma petite partie de la Suisse. C'était un Cash Converter qui l'a vendu à pas cher. Il y avait marqué Pokémon dessus et je l'ai jamais eu avant, donc j'ai fait oui en le voyant. Ensuite, j'ai vu l'anglais, j'étais petit et j'ai fait c'est compliqué. Donc j'ai quand même réussi à le terminer, mais c'était non sans peine. Et à l'époque, j'évoluais avec l'anglais comme je pourrais évoluer aujourd'hui avec le japonais, c'est-à-dire en comprenant pas grand-chose.
Il faut dire quand même que la ligue, le conseil des quatre, était quand même relativement redoutable dans ce jeu. Ça s'est fait assez compliqué.
Plus d'ailleurs que les autres combats, je veux dire, la difficulté, la courbe de difficulté, elle est pas du tout en dents de scie. Elle est relativement facile la plupart du jeu à partir du moment où tu t'es trouvé une bonne équipe qui peut vraiment faire mal. Et ensuite, au moment où t'atteins l'équivalent de la ligue, tu t'en prends plein la figure parce que tout d'un coup, ils se mettent à exploiter, par exemple, le poison, la brûlure, toutes les spécificités du jeu de cartes Pokémon, au-delà simplement d'abattre ton ennemi en lui infligeant un certain nombre de dégâts, et tu n'y es pas du tout prêt si tu as juste bourriné le reste du jeu.
Et je sais même pas si tu avais la possibilité de changer de deck contre le conseil 4, si tu devais un deck pour affronter les 4.
Sauf erreur, tu ne peux pas sortir de la pièce une fois que tu commences fois que tu commences à combattre l'équivalent du conseil des 4.
Donc il te faut un deck relativement polyvalent en plus, donc ça c'est
polyvalent et robuste.
Assez difficile.
Là où il te suffit d'avoir un Pokémon tank qui a beaucoup de points de vie qui nécessite peut-être 2 énergies pour une première attaque et 4 énergies pour la seconde. Donc qui peut se prendre des coups à travers la figure comme dans les premières attaques quand tu commences à attacher des énergies et ensuite tu le défonces derrière. L'exemple typique pour moi, c'est Kongourex. J'avais des decks dans ce jeu-là vraiment centrés autour de Kongourex, parce que Kongourex, tu lui mets 4 énergies et ensuite il peut faire jusqu'à 80 dégâts suivant ce que tu obtiens au pile ou face. T'as 4 pile ou face et chaque pile ou face c'est 20 dégâts. Donc tu pouvais très vite défoncer littéralement tout le monde, peu importe leur type, parce qu'en plus tu y vas avec une attaque normale, donc t'as pas vraiment
incolore, comme on dit dans le jeu de cartes.
T'as pas vraiment, oui, incolore pour le coup, plutôt que normal, c'est le petit cercle blanc avec une étoile au milieu. C'est comme ça qu'on la remarque. Mais voilà, ça c'est pour ma petite stratégie et également comment j'ai rencontré le jeu.
Alors, du coup, ce que tu as dit aussi, c'est qu'il y a un véritable scénario. Ça, c'est quand même une chose qui est extrêmement intéressante, puisque moi, je continue à jouer. Alors, j'ai repris la collection des cartes justement après le film Détective Pikachu, et je crois d'ailleurs que ça a relancé complètement le business des cartes, parce que elles commençaient vraiment à être difficilement trouvables en magasin, et tous les vendeurs à qui j'en parlais me disaient « mais c'est fou, là, le succès des cartes Pokémon, il est reparti de manière complètement ouf », et je crois que la distribution avec Détective Pikachu n'y est pas pour rien.
Je fais une petite parenthèse, mais il s'en vend toujours, et c'est intéressant de voir à quel point le modèle de distribution des cartes Pokémon a aujourd'hui changé. À l'époque, de mon temps, c'était les boosters d'un côté et les decks de l'autre, et c'est tout. Aujourd'hui, tu regardes un petit peu la distribution des cartes Pokémon, t'as des paquets énormes avec des cartes géantes promotionnelles qui font 4 fois la taille d'une carte normale. T'as des Pokéballs avec des cartes à l'intérieur.
Je les regarde là, je les ai, elles sont sous les yeux.
Packaging de ouf. Et en plus, évidemment, le jeu s'est doté de plein de variantes différentes dans les types de créatures qui peuvent intervenir, et méga évolutions. Enfin, ils ont un petit peu suivi et repris à leur sauce les différents gimmicks de gameplay des jeux Pokémon principaux, et sauf erreur, contredis-moi si c'est pas le cas, mais j'ai l'impression que comme l'animé, le jeu de cartes suit clairement, on va dire, la trame en termes de créatures et en termes de régions des différentes générations telles qu'elles sont montrées dans le jeu vidéo.
Oui, à peu près. Tu retrouves forcément les nouvelles créatures de la nouvelle génération sont plus mises en avant. Pas toutes d'un coup, hein, ça se fait en plusieurs extensions pour un bloc. Bloc correspond en gros à une génération pour les plus récents. Et du coup, les nouvelles créatures sont mises en avant, mais t'as aussi beaucoup, beaucoup d'anciennes créatures, et notamment de la première génération, qui est toujours aussi populaire, comme on le sait, avec laquelle on nous gave énormément. Mais pour en revenir du coup à Pokémon Trading Card Game, à la version jeu vidéo, il faut savoir qu'il y a une version actuelle qui s'appelle Pokémon Trading Card Game Online, qui n'a finalement pas grand-chose à voir avec ce Pokémon Trading Card Game sur Game Boy, si ce n'est que c'est le jeu de cartes. Mais il n'y a pas de scénario, c'est vraiment juste le jeu de cartes. Et là, ce qui moi m'a fasciné du coup à l'époque, et la raison pour laquelle je l'adorais vraiment ce jeu Game Boy, c'est que tu retrouvais vraiment ton aventure comme dans ton aventure Pokémon finalement. C'était complètement copié, c'était même plutôt simpliste et c'était juste des allers-retours dans des bâtiments. Mais ça suffisait en fait à créer un cadre, à créer une cohérence, un petit univers qui est vraiment extrêmement agréable. Rien que le fait l'idée des arènes avec des petits défis à chaque fois, moi j'avais complètement accroché, j'avais complètement adoré. Et toi, c'était quoi en fait qui te plaisait le plus du coup dans ce jeu ?
Ce qui me plaisait le plus, c'était vraiment de pouvoir mettre en pratique, le jeu de cartes. Et j'aurais été, le jeu aurait été simplement une simple succession de combats rendus aléatoires, un peu à la Hearthstone, hein, soyons honnêtes. Ça m'aurait pas gêné. Ça m'aurait pas particulièrement gêné. C'est clair que c'est chouette d'avoir un travail autour plus fourni, que ce soit effectivement une petite histoirette, un petit scénario, visuellement. Enfin, il y a quand même avec les menus et surtout avec les différentes arènes à explorer. Il y a des petites idées qui sont intéressantes. La bande son est très sympa. Les thèmes sont très catchy, alors que j'y ai joué il y a un moment. On a préparé cet épisode bien avant de l'enregistrer. Je peux te réciter par cœur certains thèmes musicaux de ce jeu, tellement ils sont marquants. C'est clair qu'ils sont répétitifs, mais ils sont aussi un peu sympas, guillerets. Je les aime bien, ces thèmes musicaux. Donc, pour moi, c'est un petit peu tout le package, mais vraiment le cœur de l'expérience, c'est de pouvoir mettre en pratique contre l'ordinateur pour le coup, et sur une interface qui est simple, qui est efficace, là où je trouve que le Trading Card Game Online, qui est surtout une application ou un site internet à visiter sur son navigateur, donc une web app, je le trouve un petit peu brouillon sur certains aspects. Ça n'a pas la satisfaction d'un menu qu'on déroule avec une croix directionnelle et qu'on valide avec le bouton A, si tu veux. C'est beaucoup plus flottant, imprécis et peu satisfaisant à manipuler qu'un bon petit jeu Game Boy au pixel près, je trouve. Ça, c'est purement de l'expérience, mais je trouve que ça s'y prête bien. Et j'aurais adoré voir ce que justement Hudson aurait pu faire sur Game Boy Advance, sur DS, sur Switch, avec le même postulat de départ, qui est de prendre le jeu de cartes Pokémon et d'en faire un jeu vidéo.
Mais moi, j'adorerais. Je suis ouf de revoir un jeu de la sorte et de revoir les cartes telles qu'elles existent actuellement.
C'est clair.
Les cartes sont devenues tellement géniales. Enfin, elles sont superbes. Et puis le gameplay, moi, je prends vraiment un pied monstre à faire du Pokémon Trading Card Game online.
On se demandait.
Donc j'adorerais vraiment qu'ils ressortent un truc vraiment plus ambitieux que ce qu'ils ont proposé.
On se demandait quelle collaboration indé Nintendo pourrait avoir lieu après Cadence of Hyrule, qui est donc Breath of Fire Games pour Crypto the Necrodancer et Zelda pour Nintendo, ce qui a formé du coup Cadence of Hyrule. Peut-être qu'une collaboration entre les développeurs de Slay the Spire. Donc de ce jeu de cartes assez populaire, hein, qui est très très fun. J'y joue de temps en temps sur Switch, donc vraiment roguelike, mais avec des cartes, gestion de deck, t'ajoutes des cartes au fur et à mesure. D'avoir une collaboration entre ces devs-là et l'IP, la licence de jeu de cartes Pokémon, ce serait génial. Et ce serait le bon moment, aussi bien en termes de jeu, parce qu'aujourd'hui, les deck builders sont populaires, et les deck builders sont des jeux intéressants, et il y a tout un gimmick, justement, roguelike, qui serait potentiellement à ajouter au jeu de cartes Pokémon. Et de l'autre côté, le jeu de cartes Pokémon, tu nous l'as dit tout à l'heure, qui regagne en popularité, et qui pourrait bénéficier, être boosté par ça aussi. Ce serait un bon moment pour la licence. Ça ferait un jeu un peu d'étape pour Nintendo, pour remplir un petit peu le calendrier 2020 qui en a bien besoin, ou 2020-2021. Et pas mettre la Pokémon Company dans la situation de déjà faire un épisode intermédiaire entre temps. Bon, là, ils ont les DLC, mais voilà, qui prennent encore plus de temps pour préparer la suite. Donc, je pense que ce serait tout bénef. Et oui, un fils spirituel comme ça serait vraiment intéressant.
Et du coup, toi qui aimais trifouiller les cartes finalement, ouais. Jouer et faire ton deck, justement, est-ce que tu utilisais les decks plutôt proposés par le jeu, ou est-ce que tu fabriquais un petit peu de manière extrêmement minutieuse ton deck avec tes cartes, les énergies, les dresseurs, les Pokémon,
alors,
tout ça?
À l'époque, non. Et aujourd'hui, non plus, mais pour deux raisons différentes. À l'époque, j'étais feignant, j'avais envie de jouer, j'avais pas nécessairement envie de travailler les decks. Et en soi, qui propose déjà des decks par défaut, je crois qu'il propose trois types, hein, plante,
feu
et feu, donc qui rappelle les trois types de starters qu'on peut obtenir dans une aventure Pokémon au départ. Ça me suffisait à l'époque. J'étais tout minou, j'étais tout gamin, et choisir simplement entre les trois convenait tout à fait. Après, et j'en changeais de temps en temps, suivant justement contre quelle arène je me retrouvais. Ce qui posait un problème de difficulté, du coup, contre le Conseil des Quatre. Mais voilà. Aujourd'hui, je ne l'ai pas fait non plus, quand j'ai refait le jeu assez récemment, parce que... parce que je me doute, j'avais un peu expérimenté, et je ne sais pas faire un deck équilibré. Je ne sais pas faire un deck équilibré et cohérent, et c'est quelque chose sur lequel il faut que j'y mette plus de temps, et du coup, comme je ne peux pas, j'ai bien vérifié que j'ai bien pris mon deck avec mon ami Kangourex, et peut-être que j'ai peut-être un petit peu tweaké le deck original en donnant justement plus de place à Kangourex, plus de place aux énergies, pour que j'ai exactement ce qu'il me faut, et que derrière j'ai juste des Pokémon en support qui vont être des boucliers géants. Plutôt qu'autre chose. Donc, ça, c'est plutôt ma stratégie. En gros, j'ai légèrement pimpé le deck herbe existant. C'est le maximum que j'ai fait.
Mais bien sûr, je faisais pareil. Tu me connais, mon amour pour le type plante. Donc forcément, moi, j'étais avec mon Florizarre. Hein,
mais oui.
Mon deck, avec toutes mes plantes, forcément. C'est comme ça que j'ai les plantes, insectes et poisons d'ailleurs. Parce qu'ils sont tous sous l'égide de la plante dans les premières versions. En tout cas, je rappelle qu'il y a les premières extensions du jeu de cartes. Il n'y a pas que la toute première, puisqu'il n'y avait pas tous les Pokémon dans la première extension. Mais il y a quand même y a l'extension Rocket, l'extension Jungle, l'extension Fossile. Enfin, voilà, il y a quand même pas mal de choses dans ce jeu.
L'extension Laboratoire, je crois aussi. Enfin, il y a deux, trois trucs à débloquer.
Et puis oui, il y avait des cartes aussi qui étaient inédites, qui étaient créées uniquement dans ce jeu. Ouais. Est-ce que tu avais une astuce pour le lancer de pièces qui était normalement aléatoire, mais peut-être qu'il existait une petite combine, une petite triche, comme tu sais, la fameuse astuce du bas plus B pour faire... Voilà, exactement. Exactement, on y pense tous les deux, bien sûr.
pour capturer, pour s'assurer la capture d'un Pokémon.
Et ça fonctionne tellement bien.
À ce jour, je continue de croire que dans bleu et dans or, c'est encore un peu valable. Mais même si, en soi, il n'y a aucune valeur à ça.
Mais ouais. À ce jour, je crois que par réflexe, peut-être même que par moment, je le fais peut-être encore dans Pokémon épée et bouclier, tu vois. Genre une fois de temps en temps, me dire, allez, vas-y, c'est pas
essayer
de forcer, tu vois. C'est rien que le fait d'appuyer, tu dis, allez, vas-y, mais
ceci dit, dans les versions récentes, on a quand même plus de chances de capturer. C'est ce que j'ai aussi absorbé. Hein.
Oui, c'est plus facile.
On n'est pas face à OO dans Pokémon Or sur la tour, la tour à la con où tu balances ton Hyper Ball à peu près 20 000 fois avant d'obtenir le moindre résultat cohérent, alors que OO est paralysé et a littéralement un PV très bien. Super lutte contre la capture. Donc non, pour le pile ou face qui peut servir à la fois, va-t-on rester empoisonné ou non? Va-t-on être confus ou pas? Va-t-on donner 20 dégâts supplémentaires contre l'ennemi ou pas? Enfin, c'est ce genre de choses. Le pile ou face, donc qui est la pièce qui est jetée, c'est une tête de Pikachu ou simplement une face remplie toute noire. J'ai l'impression que si tu appuies sur A au moment où la frame t'affiche Pikachu, parce que la pièce tourne sur elle-même avant que tu la lances, que tu te donnes plus de chances que ce soit pile et donc que ce soit favorable pour toi. C'est ce dont j'ai l'impression. Est-ce que c'est véritable? Je ne sais pas. Mais ça m'a souvent porté chance, donc j'ai envie de vous dire, quitte à même si ça ne marche pas, plutôt que de ne rien faire, faites ça. C'est un peu le pari de Pascal. Allez-y et vienne que pourra ensuite sur les différents résultats de vos lancers. Toi, Lou, t'as des superstitions de ce côté-là?
Non, je pense pas. Je crois pas. Je me souviens pas. Enfin, je sais pas si j'en avais sur la pièce. Mais j'ai, par contre, l'extrême conviction que l'ordinateur triche. et qu'évidemment, lui, il a une chance de 75% de tomber sur face, du coup. Ouais. Alors que toi, c'est un peu plus difficile.
J'ai aussi l'impression, mais c'est un bon moyen de, je pense, gérer la difficulté par rapport à un joueur qui sait un petit peu ce qu'il fait. Ça m'étonnerait pas que ce soit ça. Mais encore une fois, on n'est pas allé voir dans le code source du jeu. Donc, ce n'est que de la pure impression.
Pure spéculation. Il y a une version console virtuelle qui est ressortie sur Nintendo 3DS que personnellement j'ai reprise. Ouais. Est-ce que toi tu l'as refait à cette occasion?
Bah oui, d'autant que là c'est la possibilité d'avoir le jeu dans la bonne langue, ce qui est quand même une bonne chose. Donc oui, non, carrément, je la recommande. Comme pour certains autres jeux, là je pense, j'ai fait un papier l'autre jour sur Animal Crossing et je parlais de la version DS mais sur Wii U, émulée sur Wii U. D'Animal Crossing Wild World, comme dans ce cas-là, il y a certains échanges de données qui ne sont pas possibles avec la version 3DS, avec la version console virtuelle, pour pouvoir récupérer certains boosters supplémentaires, je crois. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'aurez jamais la version complètement 100% complète du jeu à cause de ça. Ça vous met de côté un petit peu de contenu, malheureusement. Pour avoir l'expérience complète, il faut deux Game Boy Color avec le petit port infrarouge incroyable.
Ouais, c'était cool ça. Ça s'appelait le card pop, je crois.
Le card pop, exactement. Exactement.
C'était génial. J'avais un pote du coup qui avait aussi le jeu et qu'est-ce qu'on pouvait se popper tous les deux.
Mais sinon, sincèrement, je vous le recommande parce que c'est un chouette jeu. Le portage console virtuelle, il y a rien à redire de ce côté-là. C'est la version en couleur. Enfin, voilà, c'est de très bonnes factures. Ça marche bien. Voilà. Et c'est pas trop cher. Enfin, c'est le prix d'un jeu Game Boy Color, moins de 10€ sur 3DS. Donc oui. Voilà. La réponse du jury.
Je l'ai pas fini parce que je me suis dit faut que je le fasse sur ma chaîne, donc je vais pas le finir sur 3DS, mais je l'avais pris et j'ai rejoué un petit peu pour me remettre dans le mood. Et effectivement, les musiques, c'était un très grand bonheur de les retrouver.
T'as l'impression de chevaucher avec les Pokémon avec cette musique, c'est incroyable.
Mais en fait, le gros souci, c'est que je n'ai jamais ressenti les mêmes sensations en rejouant un jeu de cartes aujourd'hui, même avec Pokémon Trading Card Game Online, même si pourtant t'as ce principe de regagner des boosters, etc. Faut dire que le principe du booster, tout ça débloqué, c'était très très cool, mais je trouve que ça marchait vraiment très très bien avec ce scénario. Et y a rien qui a réussi à me faire de l'œil. Est-ce que toi t'as des idées d'alternatives? Je sais pas, est-ce que t'as fait du Hearthstone,
Hearthstone, j'ai vite décroché. Moi, les deck builders qui m'intéressent vraiment, ils sont plus du type roguelike. J'ai parlé, je crois que c'était au début de cette saison, de l'excellent Dicey Dungeons,
tout
qui sortira prochainement sur Switch, mais pour l'instant qui est déjà disponible sur PC. Et qui est sur Mac et sur Linux d'ailleurs, et qui est vraiment top. C'est par le créateur de VVVVV, donc Terry Cavano, et c'est super chouette. Mais là par contre, pas de Pokémon, vraiment l'aspect roguelike à fond les ballons, donc c'est vraiment à réserver à un certain public. Mais il y a quand même un style crayonné visuel qui est assez proche, et les musiques très catchy. La bande son de Dicey Dungeons est excellente, et puis je l'ai cité tout à l'heure, aussi dans un style roguelike mais peut-être encore plus gritty, notre ami Slay the Spire, qui là pour le coup se base beaucoup plus sur la planification de long terme et sur les conséquences. C'est un petit peu le FTL du deck builder roguelike, c'est-à-dire les décisions que tu vas prendre au départ du jeu en te disant tiens, qu'est-ce que j'optimise, est-ce que je prends plutôt ce type de carte là pour plus jouer défense, etc., va se payer lourdement en conséquences deux mondes après, quand tu vas te faire défoncer par quelque chose que tu n'as pas pu prévoir. Donc c'est des expériences de jeu totalement différentes, et malheureusement je trouve que ce jeu là, ce Pokémon Trading Card Game, est typique de ce genre de jeu qui gagne tellement au-delà de leur formule, au-delà de leur gameplay, voilà, c'est un jeu de cartes avec des monstres, tu infliges des dégâts, etc., mais le côté, je prends un terme anglais, tight, le côté très précis, très simple, très efficace, très voilà, tout doit rentrer dans un écran de Game Boy. Tout est très simple, et du coup tout fonctionne bien parce que de cette simplicité-là, les contrôles sont nickels, le gameplay est clair, les règles du jeu, etc. Enfin, tout coule de source. C'est bien adapté au format, et je trouve justement que ça nous manque parce qu'on manque également de support qui donne ces contraintes-là aux développeurs, qui donne ces contraintes-là aux studios. Quand on file à, je sais même pas qui c'est qui a développé le online, la version online de Pokémon Trading Card Game, je sais pas si tu connais le nom du studio, Lou.
Pokémon Online, non, ça me dit rien du tout. Je me demande si c'est pas interne. Non, c'est pas interne parce que c'est vraiment très moche, tu me diras, les personnages. Mm-hmm. Ça ne serait pas très étonnant. Mais non, je ne me souviens pas.
C'est Direwolf Digital LLC. Pouf. À qui on doit également, je ne sais pas trop que te dire.
Pas grand chose, j'imagine.
Bah ouais, je sais pas. J'arrive pas trop à tracer ensuite exactement ce qu'ils ont fait par la suite, mais en gros. Le problème, c'est qu'on donne à un studio comme ça énormément de possibilités. Tu vas sur un smartphone, tu vas sur une tablette. Si t'as pas un long temps de développement, et malheureusement, on donne pas un long temps de développement à ces gens-là, je l'imagine. C'est plus genre, sors le projet, on a tel budget, vas-y, coco, et en plus, faut le mettre à jour, donc tu comprends bien, il faut avancer. C'est plus le même contexte pour produire le même genre de jeu, je pense. C'est pas le même type de commande, et puis c'est pas le même type de support. Donc, le mélange de tout ça fait que, à moins d'avoir une volonté précise, d'avoir un jeu aussi satisfaisant dans ses contrôles, son interface, etc., vraiment pour satisfaire les fans et pour être sur quelque chose de très précis, de très, je reviens à ce terme anglais qui est de tight, j'arrive pas à donner, parce que la traduction littérale en français c'est serré, mais c'est pas exactement ce que je veux dire, mais vraiment qui résume un petit peu tout et qui simplifie le tout et qui en donne une cohérence d'ensemble. Si on n'a pas cet état d'esprit là dès le départ, ben non, malheureusement, d'alternatives exactes comme ça, non. Toi, t'as des exemples qui te viennent en tête, Lou ?
Bah, je pense quand même à Pokémon Trading Card Game Online, ouais. Du coup, qui est quand même intéressant et j'aime bien retrouver. En fait, comme je me suis relancé, mais vraiment de façon très 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 hardcore dans la collection des cartes, mm-hmm. J'ai plaisir aussi à les retrouver sous format numérique, d'autant que quand tu achètes un booster de cartes, même tous les packs dont tu parlais, les packs zinzin avec des grandes cartes et tout, à chaque fois tu as des petits codes que tu peux utiliser dans qui te développent pas le même contenu, mais qui te développent un contenu similaire. Par exemple, tu achètes un booster de épée et bouclier, t'as un petit code que tu rentres dans Pokémon Trading Card Game Online et ça débloque un autre booster de numérique du coup du jeu. Donc ça c'est intéressant et du coup c'est plutôt plutôt sympa. Mais bah, j'y accroche moins quand même. J'aime bien faire des combats et tout, mais il manque un scénario. Bah, c'est vrai que on y revient. C'est ce qu'on disait de tout à l'heure finalement. Ouais. Il y a quand même une suite en fait à ce Pokémon TCG 2, qui est malheureusement uniquement sorti au Japon,
ouais.
Qui était patché en anglais pour les versions un petit peu typiaque. Est-ce que toi tu l'avais testé du coup cette suite ?
Non, pas du tout. Et je pense qu'un jour peut-être je me ferai quand je m'ennuie, je me ferai peut-être la ROM. Je découvrirai ça dans toute l'illégalité la plus totale. Désolé tout le monde, mais comme il n'y a pas d'autre solution de le faire. Ou si Nintendo décide de faire une Star Fox 2 et de le traduire, pourquoi pas. Mais
j'ai pas moyen.
Mais pour le coup, même studio, même dev, même plateforme. Donc je parie qu'il doit être très chouette, même si j'ai pas pu y plonger dedans. Mais il y a ce problème-là, voilà, qu'il a été patché en anglais, qu'à la base c'est un jeu en japonais et donc qu'il est très difficile d'accès. Ceci étant, Pokémon Trading Card Game sur Game Boy Color, quand vous commencez à chiner et à regarder un petit peu d'occasion pour des jeux Game Boy Color, il est pas si inhabituel que ça de tomber dessus. Donc il est pas aussi fréquent qu'un Super Mario Land ou qu'un Pokémon Blue, ça c'est certain, mais vous avez vos chances, j'ai envie de vous dire. Donc, gardez l'œil ouvert le jour où les boutiques d'occasion rouvriront. Voilà.
Merci beaucoup, Yann. Du coup, on va pouvoir reprendre la machine à remonter dans le temps. Cette fois-ci, retour vers le futur. On reste chez Nintendo, mais on va du côté de la Switch. Alors, on passe en version 10.0 de l'OS Switch. On peut faire plein de nouvelles choses,
oui,
n'est-ce pas?
Oui, on peut faire plein de nouvelles choses. Alors, deux nouvelles choses, Alors, je me suis fait traiter de pisse-froid sur Twitter.
Oui, j'allais le dire.
Et par Stan et par Kokobé, et ils ont raison. Parce que à chaque fois que je vois une mise à jour, et surtout une mise à jour majeure de la Switch, quand je vois la petite news sur mon dashboard, parce qu'il faut dire, elle tombe assez vite.
Il y a une chose que t'attends, c'est ça.
C'est les dossiers. Parce que j'ai beaucoup trop de jeux Switch, car merci les soldes, merci mon pouvoir d'achat et merci l'ordre de mes priorités dans ma vie. Et j'aimerais bien pouvoir ranger mes jeux Switch dans des dossiers, et les dossiers ils ne sont toujours pas là. Par contre, ce qu'il y a là, c'est quand même de la bonne nouvelle, et j'avais pas réagi là-dessus vraiment quand j'avais réagi sur moins les dossiers, c'était plus parce que juste je veux des dossiers. La première chose, c'est de pouvoir transférer ces données de jeu, donc données de mise à jour, données d'installation de jeu si vous avez ça, etc., et données de DLC d'ailleurs, de la carte SD qui est dans votre console à la mémoire flash de la console et réciproquement. Donc vous pouvez faire en gros des coupés-collés de l'un à l'autre. Ce que j'ai utilisé dans mon cas, parce que faut le préciser, hein, les données sur la Switch, par défaut, elles vont sur ta carte SD sauf si elle est pleine. C'est comme ça que ça fonctionne. On ne parle pas des données de sauvegarde. Les données de sauvegarde sont à 100% uniquement dans la mémoire de la console et sont backup si vous avez un compte Nintendo et si le jeu est compatible avec la backup dans le cloud. Voilà, ça c'est pour les données de sauvegarde, c'est un cas à part. Là, on parle vraiment des données de jeu, donc installation de jeu, DLC et mise à jour. Donc ça, pour le coup, j'ai fait un déplacement, c'est Animal Crossing. Parce qu'Animal Crossing, je vais beaucoup continuer à y jouer dans les mois et peut-être même les années qui viennent. Donc ça fait sens que ce soit dans une part de ma mémoire qui soit un petit peu à part, c'est-à-dire du coup la mémoire de la console. Il y a la place parce que le jeu n'est pas trop lourd. Par rapport aux 20, 25, 30 et quelques gigas qui sont disponibles à la base une fois l'OS ayant pris sa propre partie et mes gigatonnes de screenshots et de vidéos d'ailleurs, mais voilà, donc ça c'est pour la partie donnée de jeu. Il y a également la possibilité, et ça c'est génial pour les personnes qui en ont besoin d'un point de vue d'accessibilité, de remapper, donc de dire tel bouton en fait c'est tel autre, de dire A c'est pas A en fait c'est B, X en fait c'est B, Y en fait c'est A, R en fait c'est L, etc. De faire ça sur les Joy-Con, de faire ça sur la manette Pro et de faire ça également sur les contrôles de la Switch Lite. De pouvoir inverser ça, donc vraiment au niveau de la console en entier. Donc tous les jeux derrière vont obéir comme ça. Donc ça, c'est assez chouette. Toi, tu vois une utilité pour toi, aux deux?
Pas forcément pour le transfert des données, mais alors pour le coup du remap, je me pose la question justement parce que, comme tu le sais, je joue aussi un petit peu avec la manette 360. Je ne joue pas la manette Xbox. Et comme tu le sais, les boutons AB sont inversés, mais également avec leur utilité première, c'est-à-dire que B pour annuler, A pour valider, c'est aussi inversé par rapport à l'un par rapport à l'autre. Okay, peut-être. Donc peut-être que je vais passer, mais en même temps, je suis quand même habitué à jouer comme ça sur Switch, donc je suis pas trop sûr. Okay. Je me pose la question en fait encore.
D'accord. Il y a plein d'autres mises à jour dont on doit parler, ceci dit.
Ah, il y a plein de mises à jour de jeux, surtout notamment Kawashima. Donc tu as le jeu Kawashima, on en a parlé justement dans la cartouche dans un épisode au début de l'année, et il y a des nouveautés.
Deux nouveautés, une qui était attendue, l'autre qui ne l'était pas du tout, et je vous avoue que je ne sais pas quand est-ce que cette mise à jour a eu lieu, parce que un jour j'ai relancé Kawashima par curiosité en me disant est-ce qu'ils ont lancé le concours mondial de mesurage de cerveau, et la réponse est oui. Donc tous les samedis, si je ne fais pas erreur, vous avez un petit concours, différentes épreuves à passer, et vous pouvez voir est-ce que vous êtes mieux que les 1000, 10 000, 100 000 personnes qui vont participer ce jour-là, avec un petit classement sympa et également la possibilité de voir la place de vos amis sur ce classement. Donc voilà, le petit concours mondial de programme d'entraînement cérébral, d'une part, et d'autre part, vous pouvez le débloquer soit en faisant le forceur, en disant non, débloque-le-moi maintenant cette épreuve bonus, ou alors en ayant, je crois, il faut avoir atteint l'âge de 20 ans, qui est l'âge maximal, enfin, le meilleur âge possible pour l'évaluation de son cerveau. Une fois que vous avez ça, vous pouvez débloquer le test de concentration qui, c'est marrant, reprend justement ce que je louais, c'est-à-dire une des épreuves de la version 3DS qui s'adapte pour le coup à votre nombre de réponses positives. Donc ce test de concentration, il n'y en a qu'un seul, hein, c'est pas différentes épreuves de test de concentration malheureusement, mais est bien là et je dois dire apporte un petit peu plus d'intérêt pour toutes les personnes qui sont intéressées par ce jeu. Ça reste juste une épreuve supplémentaire, donc est-ce que ça justifie encore une fois le prix de la chose ? Pas encore, mais si Nintendo continue d'ajouter épreuve après épreuve au fil des mois, là peut-être ce sera intéressant. Donc à suivre, un bon petit bonus pour les gens qui ont déjà le jeu et pour tous les autres, que j'invite d'ailleurs du coup à relancer le jeu pour découvrir ça, et puis les autres, restez en stand-by si voilà, vous voyez une version à prix réduit de Kawashima sur Switch, ou alors peut-être si vraiment ça vous intéresse, d'attendre un petit peu d'autres mises à jour de ce même genre s'ils en font. Lou, ça te donne envie de le relancer?
Ben je l'ai pas. Donc,
ah oui, c'est vrai, à la base tu devais l'avoir, mais tu ne l'as pas.
Ben oui, j'étais très excité par le jeu, et puis tu m'as quand même à moitié refroidi, et puis tu vois,
j'ai eu raison.
Priorité finalement. Donc,
j'ai eu raison, parce que c'est quand même, sur une très très grande partie, une ressucée de l'épisode original.
Ben ouais, c'est dommage.
Par contre,
hélas.
La suite, c'est pas une ressucée.
Oh là là, pas du tout. Et là, c'était quand même une grosse claque, parce que c'était... On en avait parlé quand même la fois dernière, hein, ouais. C'est marrant, mais c'est pas exactement ce qu'on attendait, mais j'ai quand même été largement surpris par ce qui a été annoncé pour Super Mario Maker 2, ouais. Une grosse bande-annonce, plein de nouveaux outils, plein de nouveaux costumes aussi, ça c'était assez inattendu, et surtout le World Maker. Alors, je te laisse détailler petit à petit.
Exactement, la mise à jour est sortie, hein, si vous nous écoutez, c'est qu'elle est sortie, d'ailleurs pour nous elle est sortie le jour de l'enregistrement de ce podcast, hein, mercredi 22 avril, une vidéo de 4 minutes qui présentait donc la dernière grande mise à jour de Mario Maker 2. Un petit peu triste quand même de voir que c'est la dernière. Est-ce que ça veut quand même dire que des DLC pourraient arriver, comme c'est toujours ma théorie? On verra bien, mais à ce stade...
Bah, c'est bizarre hein, quand même cette histoire de autre style au pluriel qui y en a qu'un seul.
Après est-ce que le Covid est passé par là? Est-ce que des changements de priorité au sein de Nintendo sont passés par là? On n'en sait rien. Toujours est-il, les deux grands objets, on va dire, de cette mise à jour-là. D'une part, on va y aller maintenant, hein, le World Maker, le Super World Maker, qui permet du coup de créer des cartes dans lesquelles vous allez pouvoir tel niveau, tel niveau, tel niveau. C'est des cartes qui sont explorables, un petit peu comme l'Overworld de Super Mario World, ça y ressemble même beaucoup, et dans lequel vous allez simplement lancer tel niveau après tel autre, après tel autre. Vous y ajoutez simplement, vous les designez vous-même, vous pouvez créer jusqu'à 8 mondes, chaque monde peut contenir jusqu'à 5 niveaux, et en tout, 8 x 5, vous pouvez y mettre 40 niveaux à l'intérieur. À partir des niveaux évidemment que vous avez créés vous. Donc ça vient avec son lot de limitations. L'interface qui permet de browser, de visiter les différents mondes est extrêmement limitée, beaucoup plus que l'interface qui permet de trier les niveaux. En gros, t'as deux manières de trouver un world aujourd'hui. Soit tu le recherches en tapant le code créateur de la personne qui l'a créé, donc niveau possibilité de découvrir des trucs, c'est zéro. Et de l'autre côté, tu as la possibilité d'afficher aléatoirement un certain nombre de mondes. Et c'est tout. Et quand je dis un certain nombre de mondes, en fait, c'est un certain nombre de suites de mondes, un petit peu comme si c'était son petit jeu Mario à soi. Évidemment, ça peut être un seul monde, comme ça peut être jusqu'à 8 mondes de 5 niveaux chacun, je le disais tout à l'heure. Mais je pense quand même que malgré ces limitations-là, ça te hype bien, ce qu'on a vu.
Ah mais complètement, moi ça me rend fou. Forcément, je me suis dit, quand est-ce que le Super Coco Bay World va sortir? Je n'arriverai jamais à finir, même pas à passer le premier niveau, parce que ça sera bien trop dur. Mais non, j'ai... Le truc qui m'a le plus fait kiffer, c'est très anecdotique, tu voyais la carte du monde et t'entendais la musique d'un des mondes de Super Mario World 3, je sais plus exactement lequel. Je suis même pas sûr de l'avoir vu d'ailleurs sur un trailer ou sur Twitter.
Ça mélange un petit peu tout en vrai, parce que tu peux également avoir des petits bruitages qui viennent de New Super Mario Bros. Ils ont mélangé un petit peu tous les univers du point de vue sonore.
Ah ouais, non mais c'était génial, et puis voir cette map que j'adore de Super Mario World que tu peux refaire, enfin l'idée en soi c'est que là on te permet de créer un jeu en fait avant de créer des niveaux, là tu crées une succession en fait, donc j'espère qu'on va tomber sur des choses très intéressantes malgré tout. Mais j'ai aussi été hypé par le fait qu'il y a des nouveaux costumes, dont celui de la grenouille que j'adorais déjà dans Super Mario Bros 3, qui était génialissime, et ils ont refait le ballon de puissance de Super Mario World avec une meilleure comment dire, tu peux diriger Mario d'une meilleure manière.
Tu contrôles une sorte de boost en fait, au lieu de t'as un bouton pour pouvoir dasher dans le ciel entre guillemets. Alors évidemment pendant la durée du truc, enfin il y a plein de choses. Tu as les Mecha Koopa qui sont de retour, dont certaines versions jettent des lasers, donc ça va être un chaos total. Ils ont ajouté énormément de choses et toutes les lister seraient super fêtatoires. Allez voir la vidéo si vraiment vous voulez voir tout le détail. Moi les deux choses que je retiens et que je veux faire retenir à nos auditeurs aujourd'hui, c'est d'une première part Super Mario Bros 2, un peu à la manière du costume de Link, tous les personnages peuvent recevoir un costume Super Mario Bros 2 qui permet donc, qui change carrément le gameplay parce que les ennemis ne s'écrasent plus, tu sautes dessus et tu peux les soulever et tu peux les lancer, donc ça change carrément comment est-ce que tu interagis avec les différents ennemis du jeu. Et d'autre part, quelque chose qui n'était pas dans la vidéo mais qui va faire un monde de différence si vous jouez en multi et notamment en multi en ligne, c'est que désormais il existe un tag, donc quand vous créez votre niveau et que vous le mettez en ligne, un tag un joueur pour dire voilà, ça c'est pour un joueur solo, ce qui va permettre quand vous allez faire du matchmaking et chercher des niveaux aléatoires pour jouer avec vos amis, que ces niveaux-là soient exclus de vos parties multijoueurs. Et ça, c'était un des gros problèmes du multi-online, c'était de se retrouver à plusieurs sur un niveau qui était clairement fait pour un seul joueur et personne ne va tenir sur une plateforme qui ne peut faire tenir qu'une personne. Alors voilà, il va y avoir un tri un petit peu meilleur. Le problème, c'est que c'est pas rétroactif. Malheureusement, on doit se fader plus de 8 mois de niveaux qui n'auront pas été taillés comme ça, mais au moins ils font un effort et ça je pense c'est une bonne nouvelle. Peut-être même d'ailleurs que dans leur filtre ils vont faire exprès de masquer un petit peu les niveaux des 8 derniers mois. Ça on verra bien, peu importe la décision qu'ils ont pris de ce côté-là, on verra bien ce que le netcode donne, mais déjà là c'est une bonne nouvelle. Je sais pas si t'avais vu toi Lou cette nouvelle concernant les niveaux, les tags de niveau. Je crois que t'as même aussi un tag technique qui va être très pratique pour ceux qui font des niveaux de troll et des niveaux de glitch. Mine de rien, ils embrassent pas mal la communauté et ce qu'elle fait du jeu.
Ah puis le jeu est quand même très très suivi et je voyais même avec toutes ces nouveautés quelqu'un s'exprimer sur Twitter dire mais c'est carrément Super Mario Maker 3 en fait finalement qui sort. Alors, j'irai pas jusque là mais c'est vrai que les mises à jour de manière générale, enfin le jeu a été extrêmement bien suivi je trouve. Et tout est gratuit en plus, donc ça donne vraiment bon espoir, surtout quand tu vois l'ensemble des jeux en fait finalement.
Et puis rappelons Mario Maker 2, il a un mode solo qui est génial au-delà de ça. Et c'est ça qui est ouf, c'est qu'en fait au-delà de toutes ces améliorations à comment Mario Maker est pour la création, le multi, cette expérience là derrière, t'as un mode solo de plusieurs heures qui est top et qui justifie déjà en lui-même d'acheter le jeu. Enfin, c'est dingue de se dire à quel point ce jeu là est un full package et un des jeux les plus importants de la Switch de l'année dernière. C'est vraiment marquant pour le coup.
Essayez de ne pas passer à côté. Et de la même manière, un jeu qui vient à peine de sortir et qui a déjà une sacrée mise à jour,
une troisième là à ce stade,
mis sur les fesses, c'est Animal Crossing New Horizons avec plein de retours. Alors déjà, j'aimerais qu'on parle du retour de celui moi j'attendais le plus, forcément, c'est Runar.
On l'espérait, on s'y attendait, parce que les petites marches sur le musée, qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce qu'on allait avoir notre ami le Runar qui va nous vendre des tableaux et des tableaux, du coup, des œuvres d'art à mettre et à exposer dans le musée? Eh bien, la réponse est oui. Au-delà de ça, on a également un boutiquier, non pas un boutiquier, mais un événement plus lié aux fleurs, qui va nous permettre d'ailleurs de récupérer des verdures supplémentaires pour orner le village.
Ah, ça c'est une boutique, c'est Racine.
Ah, pourquoi c'est Racine? Oui,
c'est une nouvelle vendeuse
qui passe de temps en temps, du coup. Ouais.
Ouais. Et tu auras plein d'événements, effectivement.
Mais je crois que Racine vient aussi pour le jour de la Terre, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est pour ça que j'ai confondu les deux.
Avec des missions supplémentaires, le jour de la Terre, ça va être, qui va durer plus d'une journée d'ailleurs, vu que ça va s'étaler sur toute la fin du mois d'avril. C'est plein d'événements verts, en fait, finalement, qui te permettront de gagner des points. Et avec le 1er mai, je crois, où c'est le Grand Labyrinthe, justement, un événement qui dure toute la journée. Ouais. Et puis, plein d'autres choses. On a vu la journée des musées. Enfin, c'est assez fou tout ce qui est prévu.
Sur la journée des musées, je me permets une petite anecdote, parce qu'en fait, le gameplay de la journée des musées, visiblement, c'est de récupérer des tampons aux quatre coins du musée. La mécanique de récupérer des tampons, tu sais de quel jeu ça vient?
Pas du tout, non.
Animal Crossing, Welcome Amiibo, Amiibo Festival, donc le Mario Party Like, où un des éléments de gameplay, c'est d'aller tamponner dans les quatre coins de la carte.
Mais oui, et un petit peu comme dans Course à la Fortune, mais version cheap.
Ouais, exactement.
C'est vrai, j'avais complètement oublié cet aspect-là de ce Mario Party nullissime qui a dû avoir 3 sur GameCube.
Et donc, non, c'est ça qui est rigolo, en fait, c'est que en Scred, ils font leur petit hommage à Amiibo Festival, qui n'est pas apprécié. Et c'est dommage, parce que à mon avis, Amiibo Festival, il lui manquait une chose, c'était 6 mois, 1 an de plus de développement, et d'en faire un jeu un peu plus robuste, avec plus de choses intéressantes à faire dedans. Mais en soi, le squelette, il y avait quelque chose, il fallait en faire plus. Mais bon, pour moi, c'est un énorme gâchis, en fait, Amiibo Festival. Reste que, belle mise à jour, pour le coup, et je sais pas pour toi, mais moi, je suis vraiment rassuré sur les PNJ qui nous manquent encore, les types d'époque qui nous manquent encore. J'ai vraiment l'impression qu'ils vont aller loin. Et encore une fois, je regarde ce ponton au bout de mon île avec beaucoup d'insistance en me disant, on va me permettre de faire quelque chose de spécial avec ça, hein.
Mais
hein,
tu sais qu'il sert à quelque chose, ce ponton.
Eh ben, je l'ai pas encore débloqué. Ne me dites pas, n'envoyez pas de tweet à ce sujet.
D'accord. Mais non, mais y a rien à débloquer. Ah. Mais son existence en tant que telle,
est justifiable.
Est justifiable. Je t'en dirai pas plus.
Okay.
ou je t'en dirai peut-être en antenne si tu veux, parce que c'est pas non plus un énorme spoil, hein, mais, okay. mais il est utile. Ah. Pour une utilité de ponton classique, on va dire. Je vais revenir sur Runard quand même, parce qu'on a évoqué les tableaux, mais il y aura aussi des sculptures.
Oui. Et
on retrouve le principe de Runard qui a été renforcé d'ailleurs, c'est-à-dire que Runard est un roublard, hein, d'où son nom, un Runard, presque un nom de Pokémon d'ailleurs. Mm. C'est-à-dire qu'il vous vend à chaque fois, il vous propose différentes œuvres. Mm. À l'origine, c'est 3, hein, je crois. Une seule est vraie, les deux autres sont des contrefaçons, à vous d'acheter la vraie parce que vous ne pouvez en acheter qu'une seule.
Ouais.
Donc il faut tomber juste. Et c'est pas si dur que ça parce qu'en fait il faut observer les œuvres. Ce sont des reproductions d'œuvres réelles. Mmh. Et simplement il y a des œuvres qui sont un petit peu maquillées. Par exemple, je me souviens, et c'était génialissime, c'était quand même la Vénus de Milo qui avait des bras en vrai. Donc fallait pas l'acheter cette version-là, évidemment, c'était pas la vraie. Donc voilà, il y a des peintures où ils ajoutent des choses, etc. Mmh. Et c'est assez rigolo. Moi j'adorais. Des fois j'achetais les contrefaçons rien que parce que j'ai trouvé très 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 cool.
Ouais.
Et voilà. Et là on pourra les inspecter d'un peu plus près justement. Mmh. Et j'aime bien ce côté presque éducatif finalement qu'on a aussi avec les poissons et les insectes d'ailleurs. Et ça me rassure comme tu le dis parce que il y avait quelque chose qui m'agaçait déjà, c'était tous les time travelers qui débloquaient tout et c'était chiant. Et là tu te dis bah en fait ton time traveler ça sert à rien d'avoir voyagé parce que le contenu va arriver finalement quand eux l'auront décidé et quand ils le mettront en ligne. Donc ça, je trouvais ça déjà très très bien. Et ça permet aussi d'être rassuré sur les événements qui vont arriver. Donc il va y avoir un bon suivi, je pense, du jeu. Et c'est quasiment sûr, vu qu'il est en train de péter les records de vente quand même. Hein. C'est le jeu, je crois que ça a été confirmé, c'est le jeu en téléchargement sur console qui était le plus vendu. Donc dû évidemment aussi à la période. Hein. Il faudra voir les
parce que si c'est le cas, Nintendo va en parler lors de leur bilan aux actionnaires. Il faudra voir exactement ce qu'ils disent à ce moment-là. En tout cas, ce qu'on sait, ce qu'on suspecte, c'est que c'est un carton phénoménal. On a peu à peu les chiffres qui nous arrivent, notamment sur les 3 premiers jours de vente au Japon, ce genre de choses. Comprenez qu'à cause de la période, c'est très difficile de totaliser des chiffres de manière stable, notamment sur du retail vraiment en magasin. Donc on est dans une, on navigue un peu à vue et dans le flou par rapport à ça, mais clairement Animal Crossing pète des records et visiblement
aux États-Unis aussi hein, c'est des ventes
plus,
par million,
je crois qu'il s'est plus vendu de Switch en mars 2020 qu'en mars 2019, genre d'un rapport de deux fois plus, et c'est vraiment rigolo. C'est vraiment rigolo.
Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir la suite et j'aimerais bien qu'ils fassent revenir Resetir et pour qu'ils puissent engueuler tous les gens qui font du time travel quand même.
Ouais.
Genre, je sais pas, c'est le fait de, je sais pas, bloquer des événements aux gens parce qu'ils ont fait du time travel en fait. Parce que je sais pas.
tu es punitif, tu es méchant.
Tu peux pas reculer, je pense, la date de ta console pour te reconnecter une fois que t'as fait du time travel.
Je n'ai pas fait l'expérience donc je ne sais pas.
Parce qu'à mon avis, enfin, le jeu il pète un plomb. Si c'est comme dans les anciens, ça c'est pas cohérent.
Il doit simplement. Il doit simplement effacer un certain degré de progression dans certains événements et s'en foutre pour le reste. Je pense qu'ils ont pensé à ça parce que c'est un cas de figure qui peut arriver.
Moi, j'aimerais bien qu'ils pensent au fait qu'il faut une synchronisation entre la date de la console et d'un événement pour pouvoir obligatoirement avoir accès à cet événement et rendre impossible le fait de revenir en arrière du coup. Je suis extrêmement punitif.
Tu parles comme Microsoft sur leur premier design de la Xbox One. Il faut être tout le temps connecté à Internet, sinon je te tape sur les doigts.
Mais non, ils peuvent jouer hors connexion, mais juste les gens jouent comme ils veulent, mais je trouve que c'est extrêmement dommage de ne pas jouer au jeu de la façon dont il a été pensé, c'est-à-dire un slow game finalement. Mmh. C'est on picore, etc.
Mon argument, c'est faites ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, ne me partagez pas de tweets avec vos screenshots de trucs late game ou ne me faites pas venir dans vos villages de ultra late game complètement dopé. Voilà, c'est ma seule recommandation me concernant. Foutez-moi la paix.
Mais en même temps, tu vois, en jouant simplement 30 minutes, 3 quarts d'heure par jour.
Ah, t'avances bien. Hein.
En un mois, bah ouais, j'ai quasiment déjà un village. Alors esthétiquement, bon, j'ai pas les petites routes, les machins comme ça et tout. J'ai encore rien foutu.
D'avoir la deuxième version de la boutique Nook.
Ah, je n'ai pas eu encore. J'ai pas dû acheter suffisamment d'éléments, je pense.
Eh bien, bah, fais comme moi, achète une baignoire à 60 000 clochettes.
Ah oui, ça aide. Elle était très belle ta baignoire en même temps. J'étais très jaloux de pas encore l'avoir. Non, moi, je prends des services à thé, je prends des magazines, je prends que des trucs de merde que je ne peux pas placer parce que j'ai pas de table. Donc j'ai hâte d'avoir la nouvelle boutique.
Et le pire, c'est que j'achète que quand ça me fait plaisir, quoi. Même la baignoire, je l'ai achetée parce que j'ai vu la baignoire à 60 000, j'ai fait.
J'ai eu le malheur de tomber sur la couronne chez les sœurs doigts de fée, donc j'étais dégoûté parce que j'avais pas les moyens, évidemment. Ah ouais. Qui est un des accessoires que j'adore forcément, qui aime être la péter avec. Mais bon, je me suis contenté d'une tiare à 5000 clochettes et j'étais déjà très content.
Ça ferait un très bon titre d'épisode. Je me suis contenté d'une tiare à 5000 clochettes. Excellent.
C'est mon côté très princesse. Uh-huh. Bon, allez, on va passer à.
Faut que je te file ta robe d'ailleurs, mon sang. Mais c'est une autre histoire.
C'est vrai. On s'est toujours pas visité d'ailleurs. Ah, Splatoon 2.
Oui.
Un des premiers Splatfest de retour en mai.
Oui, ketchup contre mayo, ce n'est pas le Burger Quiz, Alain Chabat n'est pas là, ne le cherchez pas dans les recoins du Splatfest. Non, parce qu'en fait, il y a quelques mois, Nintendo a fait ouin ouin ouin, c'est le dernier Splatfest, allez, au revoir, bisous. Et là, on a eu une petite annonce en mode, eh ben non seulement il va y avoir une démo gratuite bientôt de Splatoon 2, où vous allez pouvoir jouer à différents trucs, si vous n'avez pas le jeu, mais en plus, en mai, comme ça, bonus, je crois que c'est mi-mai, fin mai, vous aurez un Splatfest supplémentaire qui en fait une rediff d'un précédent. Donc écoute, comme j'avais pas trop fait les Splatfest à l'époque, je pense que je vais m'y mettre, juste pour le fun, de participer comme tout le monde, et pour le coup, de lutter pour la team Ketchup, disons, voilà, la décision est prise maintenant. En fait, je sais plus si c'est ketchup mayo ou ketchup moutarde, parce que si c'est ketchup ou mayo, je vais plutôt dire mayo, parce que les frites c'est quand même mieux. Et si c'est moutarde, je vais peut-être prendre ketchup pour le coup. Donc on verra, je me souviens plus lequel des deux c'est, mais toujours est-il. Splatfest à venir si vous les aviez manqués. Voilà, voilà, voilà.
On va finir sur une mauvaise nouvelle malgré tout, enfin oui. Plutôt sur une petite touche de prévention. Il y a eu plusieurs hacks, notamment liés au compte PayPal sur les comptes Nintendo Switch.
Et
est-ce
vos
que
mots
tu
de
veux
passe
un peu
même.
Nous résumer tout ça?
Carrément vos mots de passe, en vrai, parce que le PayPal, c'était pas directement le point principal de la faille qui les a menés au compte, c'était l'objet même qu'ils étaient venus chercher en se connectant sur votre compte. Donc si vous avez reçu une notification vous indiquant que il y a des activités étonnantes et qu'on se connecte à votre compte Nintendo depuis un pays carrément inhabituel, genre la Chine, genre le Canada, etc.
Comment on peut recevoir ces informations justement ?
Normalement, de toute façon, vous recevez un email à l'email qui est renseigné à votre compte Nintendo si jamais vous avez une connexion frauduleuse. Sinon, vous cherchez Nintendo account sur Google, vous prenez donc je vais mettre le lien de toute façon dans la page de l'épisode pour pas que vous vous trompiez, mais accounts.nintendo.com, vous allez là-dessus, vous vous connectez avec et vous regardez un petit peu l'historique de connexion, si on s'est connecté à partir d'un device ou à partir d'un lieu qui vous semble étrange. Si c'est le cas, déconnectez tout, ça vous forcera à vous reconnecter à l'eShop sur votre Switch, mais ça c'est un moindre mal. Changez le mot de passe. Changez également le mot de passe de tous les comptes connectés type PayPal. Retirez vos informations bancaires si elles y étaient et que vous avez eu de la connexion, la connexion sauvage. Et attendez un petit peu. Si vous pouvez installer le double facteur d'authentification, il faut passer par Google Authenticator pour le faire. Mais voilà, si vous êtes face à une brèche, c'est un problème. Mettez un mot de passe bien solide. Utilisez un gestionnaire de mot de passe type 1Password, par exemple. Je cite celui-là parce que j'ai confiance dedans, qu'il est sérieux. Et qu'il ne m'a jamais failli. Et voilà, restez en sécurité. Une bonne astuce également, et c'est mon cas, dans tous les cas, par rapport à ce genre de boutique-là, c'est d'avoir une carte de crédit, mais une carte de crédit au solde prépayé. Parce que ça évite justement les angoisses de se dire, mon Dieu, quelqu'un a littéralement ligne directe avec mon compte en banque et les dépenses en V-Box Fortnite parce que tel service s'est fait hacker. Là le truc c'est vraiment à mon avis de limiter la casse dès le départ, et si vous le pouvez de regarder avec votre banque si vous pourriez pas avoir une carte de crédit pour le coup. C'est vrai que c'est un peu moins pratique, mais c'est plus sécurisant, qui empêche ce genre d'abus en cas de dérapage en cas de problème. Donc accounts.nintendo.com, le lien est dans la description de l'épisode, et il est également sur la page de l'épisode sur blueprint.pm, voilà, si vous voulez accéder à ça pour pouvoir vous connecter à votre propre compte Nintendo et faire les changements d'usage si nécessaire.
Eh bien Yann, ça va être ton moment de gloire puisque oui, c'est l'heure du calendrier
de la cartouche, exactement, du 24 avril au 7 mai. Es-tu prêt, mon cher loup?
Je suis tout à fait prêt.
Alors, sois prêt également à la déception parce que Covid oblige, pandémie oblige. Ouais. Figure-toi que l'industrie du jeu vidéo, elle en prend un peu plein la figure et de jeux intéressants qui sortent en ce moment. Ce n'est pas la grande teuf. Hein, donc, qu'est-ce qu'on a? On a quand même Street of Rage 4, dont on a parlé il y a très très longtemps, par Dotemu, par les petits français de Dotemu, du Beat'em All, qui sort donc le jeudi 30 avril sur PS4, Xbox One, Switch et Windows. Comptes-tu le faire?
Il m'intéresse quand même.
Il a un bon petit style, hein, visuellement.
Ouais,
très BD.
J'avais adoré du coup les premiers. J'aime bien le fait que ce soit ultra référentiel. On retrouve vraiment le style. Ils ont pas voulu moderniser. Ils ont voulu vraiment s'inscrire dans le style des titres originaux. Je pense que je vais regarder les retours et potentiellement je vais peut-être y jeter un petit orteil.
Alors, ce qui est drôle, c'est qu'entre la préparation de cet épisode il y a un jour et demi et maintenant, au moment où on l'enregistre, le deuxième jeu de ce calendrier de la cartouche, deuxième et dernier jeu de ce calendrier, Trackmania, qui devait sortir, donc Trackmania tout court, qui est une réinvention de Trackmania Nations pour le coup, donc dans l'univers Stadium, est plutôt basé sur la compétition, enfin vraiment fait pour être un bon lance-pied vers des compétitions de Trackmania en 2020, en 2021 et ensuite. Jeu de course donc de Nadeo Ubisoft, très facile à prendre en main les Trackmania, juste vous y jouez avec les quatre boutons directionnels sur votre clavier ou avec le stick de votre manette. Il aurait dû sortir le 5 mai, mais à cause du coronavirus, les équipes de Nadeo ont dû se restructurer un petit peu, retravailler les choses, et du coup, il ne sortira que le 1er juillet. Donc, vous auriez pu, mais finalement non. 1er juillet donc sur Windows, c'est le seul support à ce stade qui est annoncé pour le nouveau Trackmania. On vous aurait bien répondu à vos questions, à vos réactions, mais nous n'avons pas reçu de courrier. On rappelle donc pour le prochain épisode, ça se passe sur lacartouche@blueprint.pm et @lacartouchebp sur Twitter. Et du coup, ça me laisse avec cette dernière petite question, mon cher Lou. À quoi joues-tu en ce moment?
Eh bien, écoute, confinement oblige, je ne suis pas seul. On a relancé Overcooked et on l'a fini avec brio. Et du coup, je me suis lancé dans Overcooked 2 que je ne connaissais pas, en revanche, et que je trouve tellement meilleur que le premier. Le premier était déjà très très bien, il était très cool, très drôle, mais le 2 il te reprend. Tu l'as fait ou pas?
Le 2 non, pas du tout. J'ai un peu joué tripoté le premier, mais je suis pas allé plus loin.
Il te reprend la recette. Déjà, il est moins punitif pour le mode de campagne.
J'aurais dû prendre le 2 parce que je trouve trop punitif le 1.
Le 1, après, une fois que tu l'as dans la tête, c'est bon. Et surtout, il est extrêmement varié. T'as des situations qui sont très très cool. Le premier monde m'a mis vraiment plein les yeux. J'étais un petit peu un peu moins surpris, on va dire, par la suite. Là, j'attends, on a débloqué un nouveau monde, donc j'espère qu'on va avoir des nouvelles choses un petit peu surprenantes. Mais voilà, je trouve que c'est le genre de jeu co-op qui est bien stimulant, qui est bien drôle, qui permet vraiment de se défouler. Alors par contre, faut vraiment être avec des gens qui sont bons joueurs et ne pas s'engueuler avec ses amis parce que c'est quand même un petit peu, c'est pas un jeu sympa. Donc il faut que ça y aille, mais vraiment je kiffe bien du coup. Overcooked 2, je vous le conseille. Il y a une petite compile qui est sortie du coup sur Switch, il me semble, et de toute façon c'est dispo en ligne, donc il y a point de raison. Et à toi, et toi plutôt, à quoi joues-tu en ce moment?
Alors au-delà des incursions dans Animal Crossing New Horizons et Super Mario Maker 2 avec les petites mises à jour dont on a parlé tout à l'heure, je me suis pas mal remis à Team Fortress 2 quand j'ai un peu de temps libre. Donc FPS d'équipe qui, vidéo et débat, récemment il a vécu des attaques de bots bien emmerdantes. Ça a été patché en partie, mais tout n'est pas nécessairement complètement 100% réglé. Sur certains serveurs, tu vois des gens encore avec des aimbots un peu désagréables. Tu vois également enfin voilà, on n'a plus la surcharge de serveurs et les serveurs qui tombaient à cause de ça, mais on continue d'avoir quand même des gentils petits piratins une fois sur 100 qui dominent un petit peu tout le monde sans rime ou raison. Mais voilà, je me suis replongé dedans parce que ça a un univers très chouette. Je sais pas si tu t'en souviens, Lou, mais Team Fortress 2, les différentes classes, chacune a sa personnalité, son style de gameplay, et adapté au plein de modes de jeu différents qui sont dedans. Le jeu d'ailleurs est gratuit désormais, il tourne sur Mac, Windows et Linux. et Team Fortress 2, eh bien, je consomme aussi beaucoup de vidéos à ce propos-là, justement pour me remettre un petit peu en condition et aussi pour avoir des idées plus stratégiques, de quoi utiliser, quelles armes avec quelle classe, etc., etc. Je regarde des youtubeurs dont Uncle Dane, qui est très focus sur ce que fait Linger, mais aussi d'autres, Soundsmith notamment, qui proposent voilà, des tutos en anglais, des explicatifs en anglais sur Team Fortress. D'ailleurs, qu'ils le font avec un bon montage vidéo et avec des bonnes blagues qui entrelardent un petit peu le propos plus technique. Donc, bon délire. Et je dois te dire, ça me fait une sorte d'immersion pour quand plus tard, je me plongerai dans Overwatch, qui m'intéresse également. Quand je me plongerai dans Overwatch, j'aurai déjà bien repris cette base, on va dire, ces bons réflexes du FPS d'équipe. Et ça me permettra bah, du coup de découvrir ça avec un gameplay et des personnages différents. Voilà.
Merci beaucoup Ian.
Oui.
Eh bien la cartouche, c'est terminé pour aujourd'hui. Oh. Merci à tous de nous avoir écoutés.
Ouais.
On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.
Oui.
En attendant, abonnez-vous à ce podcast pour ne manquer aucun numéro de l'émission. Si ce n'est pas déjà fait, pensez aux petites étoiles sur iTunes et aux commentaires et parlez-en à vos amis et vos grands-mères. Vous pouvez aussi nous soutenir en parlant évidemment autour de vous. À très vite. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
J'ai faim.